Radio Barque, après cette pause et la formule sur laquelle nous nous sommes quittés, revenons à notre sommaire traditionnel. Alors, moi, en tout cas, je ne sais pas toi, Michel, mais moi, j'ai fort été amusé dans la visite cubaine de M. Hollande par le selfie qu'il s'est octroyé à côté du leader Maximo. Oui. Je dis un selfie parce que la photo, c'est probablement tout ce qu'il en restera de ce rendez-vous historique. On ne sait pas ce qu'il s'est dit, on ne sait pas ce qu'il pourra en sortir. Mais en tout cas, le grand rendez-vous de l'histoire a été trouvé. Et il se trouve, c'est pas fini, que dans 2 ou 3 jours, monsieur Hollande vient à Carcassonne. Alors là, il va se faire un selfie avec quelqu'un que tu trouves énormément charismatique, Michel, le maire de Carcassonne.
Oui. Alors c'est quand même un sacré périple que fait notre président de la République. Là. Il a commencé par le Qatar, où il a vendu des Rafales. Hein,
puis
toute la gauche, en fait, radicale, s'est réjouie de cette vente d'armement qui n'a pas pu être faite par le prédécesseur.
Certains
de
se sont émus encore.
En fait, dans un pays ottoman démocratique qu'est le Qatar, tout le monde le sait, en compagnie de démocrates avancés comme le prince d'Arabie Saoudite et d'autres chefs d'État exotiques de ces régions où les femmes n'ont pas le droit, en fait, à la parole et au reste.
L'alliance du summum de la démocratie.
Il continue par Cuba, en fait, qui n'est pas encore tout à fait, que je sache, fait une démocratie, alors qu'en 2005, il tenait des propos sur Fidel Castro, en fait, et ce régime particulièrement désobligeant. Mais enfin, bon, qu'a-t-il proposé aux Cubains comme technologie française? Je n'en sais rien. Et voilà qu'il vient effectivement dans le département de l'Aude. Alors, pour vendre quoi? Je n'en sais rien encore, que j'ai ma petite idée. Je me demande si en réalité...
À moins que, après la vente au Qatar, va-t-il venir ici visiter nos célèbres châteaux? Qui sont tout aussi Qatar.
Oui, non, mais je vois surtout qu'ils viennent vendre en fait une autre catégorie de produits qui est de circonstances en tout cas historiques, puisque nous sommes à quelques mois en fait des élections régionales. Et il ne m'étonnerait pas qu'il vienne en compagnie de Madame Delga, qui, comme tout le monde le sait, est...
Ah, ça serait ça, le produit à vendre.
Et voilà, donc mon sentiment est qu'après le Rafale, après je ne sais quoi, en fait, à Cuba, il viendrait vendre effectivement la figure de cette dame pour lui donner du prestige, de la hauteur, donc, et de la plus-value, je dirais, médiatique. Ce qui est, après tout, dans le rôle d'un président qui s'intéresse à ses amis, et notamment qui s'intéresse aux futures régions, tant que cette région, la future grande région, sera dans la carte des régions à venir, un enjeu stratégique et politique très important pour la gauche.
Oui. Alors, quelque chose qui a retenu ton attention, c'est la LGV entre, disons, Perpignan et la Catalogne, qui, finalement, a de grandes difficultés financières, alors qu'elle existe... Contrairement à notre morceau qui, lui, chez nous, n'existe toujours pas.
Non, ce qu'il y a de frappant dans l'actualité sur cette question-là, mais comme sur d'autres d'ailleurs, c'est un peu à travers ce prisme-là que je la regarde, l'actualité, c'est qu'il y a combien? Il y a 15 jours, 3 semaines, de Perpignan jusqu'à Alès, en passant par je ne sais quel encore village, en fait, hein, les responsables de RFF faisaient des réunions de consultation avec toute la population locale, tous les élus locaux, en fait, etc., et vendaient cette ligne, les gares, n'en parlons pas, comme si l'affaire était quasiment close et que nous allions enfin avoir la LGV de Montpellier à Perpignan en 2025.
Oui, enfin, la date est à géométrie variable quand même.
Avec un engagement en 2016, en fait, ou 17.
Mais quand on va à ces réunions, on y croirait, je t'assure, Michel. On y croirait.
Et patatras, on lit la presse catalane, que je lis en fait, de manière attentive, hein, parce qu'elle est à toujours 2 pas avant par rapport à la nôtre. Et on apprend que le gestionnaire franco-espagnol de la ligne Figueres-Perpignan, y compris le tunnel, le GV, était en faillite. Enfin, pardon, en quasi-faillite.
Grosse difficulté.
Il sera en faillite si les pouvoirs publics français et espagnols ne lui donnent pas 34 millions d'euros. Excusez du peu. Donc, ça veut dire que... Alors, le gouvernement de Madrid, silence radio, plutôt non, ils ont dit niet. Enfin, pardon, non, peut-être en espagnol. Et pour le moment, à Paris, c'est silence radio. Conclusion, comment peut-on imaginer, quand même, pour... nos auditeurs ont un minimum d'intelligence des choses, quand même. Comment peut-on imaginer qu'avec Figueres-Perpignan, il y a un tunnel à 34 millions d'euros. On puisse imaginer et faire la démonstration, surtout à Bruxelles et à Paris, que la ligne transfrontalière Montpellier-Barcelone serait une ligne rentable, parce que c'est la condition, effectivement, pour avoir des financements. Donc tout ça pour dire que, avant, pour comprendre la logique politique, mais avant quand même de laisser croire à tous nos ressortissants, enfin, je parle du Languedoc-Roussillon, que cette affaire était bouclée, c'était qu'une histoire de quelques années, et qu'elle était parfaitement rentable, cette ligne, et que tout se ferait dans les conditions définies par les élus, notamment, à savoir pratiquement une gare tous les 40 km pour le TGV, on ferait bien quand même de prendre quelques précautions, de s'intéresser à l'économie générale du système et de poser quelques questions. Je me permets de rappeler que dans un billet qui date de 2 ou 3 mois, je crois, j'avais déjà posé effectivement ce genre de questions et interrogé sur le futur en mettant quelques points d'interrogation sur la réalisation effective de cette gare et non seulement de cette ligne
et de ces gares. Oui. Donc, alors moi, c'est un petit souvenir qui me revient, un souvenir, je dirais, presque d'ancien combattant. Je me souviens de Jacques Blanc, lorsqu'il était président de la région, qui s'était rendu dans un sommet européen dans l'île grecque de Corfou, qui était arrivé triomphant en disant « ça y est, je le tiens ». C'est un projet prioritaire européen, ce morceau de ligne. Mmh. C'était dans les années 1990, oui. C'est-à-dire il y a une vingtaine d'années.
Oui, il était président. Hélas. Il était président à l'époque du comité
des régions. Non, mais je veux dire par là que c'est comme si c'était fait à l'époque. Alors peut-être que monsieur Saint-Cluc, lui, a un regard différent.
J'ai un regard un peu différent. Je pense qu'il faut être positif, il faut être optimiste. Enfin, sinon, on arrête tout de suite. Non, je pense qu'effectivement, il y a des difficultés. Est-ce que ces difficultés ne viennent pas aussi du fait que la ligne, justement, est interrompue. C'est-à-dire que la ligne deviendra rentable que si, effectivement, il y a aussi Toulouse.
C'est vrai qu'il y a les partenariats entre Toulouse. Il y a une incohérence dans le
jeu. Il y a une incohérence. C'est-à-dire qu'on fait des débuts de ligne et puis on ne va pas jusqu'au bout. Et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on parle du TGV et on commence à se demander si ce n'est pas hypothétique. Est-ce que c'est un rêve qu'on va réussir à atteindre? Bon, aujourd'hui, il y a quand même toutes les collectivités qui tirent dans le même sens, quel que soit le bord politique. Vous avez aussi les fonds européens. C'est parce que c'est aussi grâce, effectivement, à l'Europe que le TGV aujourd'hui est remis dans de bons rails. Et il y a aussi tout ce qui se fait autour, la préparation effectivement des zones économiques. Enfin, tout ça est positif. Et il faut tirer aussi parti de la future grande région. C'est-à-dire qu'on va avoir une future grande région. On a des atouts importants.
Vous pensez que là, ça va aider, disons.
Le fait aussi que le président de la République, François Hollande, vienne dans l'Aude, il faut y voir aussi un signe positif. Alors certes, il y a aussi le résultat des élections départementales qui fait qu'il vient peut-être aussi dans l'Aude pour encourager aussi...
Oui, en tant que patron de la maison, ce qui est logique.
Tout à fait. Mais aussi pour donner un signe d'encouragement pour ce qui se fait dans le département, c'est-à-dire cette volonté aussi de dynamisme et d'instaurer une véritable... un développement vraiment de ce territoire par rapport à ses atouts. Et ça, je crois qu'il faut aussi le défendre, parce que si on a une attitude négative, eh bien, on ne va pas donner envie, effectivement, aux investisseurs et à toutes les collectivités et aux Narbonnais et à tous les Audois, eh bien, de continuer, effectivement, à investir dans ce
— Alors c'est vrai, sur ce que vous dites, rappelons tout simplement, et ça, c'est un fait incontestable, c'est que de l'autre côté de la ligne, si je puis dire, il y a Barcelone, Madrid, Séville, qui est à l'heure actuelle, qui fonctionne en LGV. Un mot, Michel.
Simplement pour dire une petite information que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas, mais les responsables de la généralité de Catalogne et les responsables de la région Midi-Pyrénées se sont déjà rencontrés il y a plus d'un mois pour réfléchir à une alternative, en fait, à la LGV, qui consisterait à mettre en circuit des TER de grande vitesse. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a déjà, en fait, des discussions qui sont à l'œuvre pour commencer, à traiter le problème de manière un peu plus équilibrée, nuancée et intelligente, sans contester ce que vient de dire à l'instant notre invité.
Voilà. Un dernier mot sur notre feuilleton du Racing et on terminera cette deuxième partie.
Oui, le Racing, Jean-Claude. Le Racing est en Pro 2.
Oui,
ça, rassuré.
Ça on le sait. Simplement, son président s'en va.
Son président.
Un président dont...
Anthony...
dont chacun s'employait à dire qu'il n'avait pas grand pouvoir, mais en tout cas, il annonce sa démission.
Il n'avait pas grand pouvoir, il était parti en Australie au chevet de son père.
Oui, ça c'est autre chose, ça c'est autre chose.
Pendant cette période, il a fait l'objet d'une campagne quand même, d'attaque personnelle invraisemblable. Je te rappelle, Jean-Claude, quand même, que pendant qu'il était absent, le maire de Narbonne réunit tous les partenaires du Racing chez lui, au palais du travail, à l'hôtel de ville. C'est le palais d'Amébillé.
Ce que tu appelles le château.
Et il dit clairement, ce sera 33, la minorité de blocage pour les Narbonnais, etc. Un président du conseil Narbonnais, et le tout est dégagé. Bon, conclusion, aujourd'hui, réunion du conseil de surveillance cette semaine, à Narbonne, et minorité de blocage, on n'en parle plus. Il n'y en aura certainement pas. Et la probabilité, c'est la presse qui le dit, pas moi, on attendons encore un petit peu, qu'il n'y ait pas de président du conseil de surveillance Narbonnais, mais que ce soit un Australien qui soit président du comité de surveillance, et qu'à la rigueur, on pourrait recruter un directeur général pour s'occuper de la communication du Racing.
Mais tout ça, c'est
on est loin quand même du schéma.
C'est des on-dit.
Mais enfin, le feuilleton n'est pas encore terminé, et je ne suis pas sûr.
On dit simplement qu'on clôt aujourd'hui un épisode, mais que le feuilleton se poursuivra dans les prochaines émissions de Radio Bar. On est d'accord là-dessus.
Ça devient quand même du très comique.
Voilà, on fait une deuxième pause et on retrouve notre invité Nicolas Sainte-Cluque.